Nous vous présentons à l'instant l'art du métier prise 2 avec Daniel Leblon, jésuite, artiste peintre, qui s'entretient avec Aimée d'Andois Paradis, poétesse, éditrice et conceptrice de spectacles de poésie.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'art du métier avec Daniel Leblon. Nous nous retrouvons à chaque mois avec sûrement de la joie. Moi, j'ai de la joie de vous faire connaître des artistes auxquels je crois ou que j'aime, qui, pour moi, apportent beaucoup dans notre monde. Aujourd'hui, nous reprenons la conversation avec Madame Aimée d'Andois Paradis, poétesse, une femme excessivement engagée, une jeune femme de 90 ans qui est toujours engagée. Donc, il y a des thèmes que l'on aimerait approfondir pour vous, pour donner un sens à notre vie personnelle et notre vie collective. Bonjour, Aimée.
Bonjour, Daniel.
Heureux de te retrouver. J'espère que tu vas bien.
Oui.
Oui. Nous avons parlé vraiment un peu comment ce goût des mots, cette passion pour les mots, pour les images, pour la création s'est développée. J'aimerais ça aussi parler peut-être un peu comment ce contact avec ton intérieur s'est développé aussi, ton intériorité à travers ta vie. Parce qu'il y a un lien quand même entre l'écriture que tu fais et ton intérieur, ta vie intérieure, comment tout ce que tu vis est comme recensé à l'intérieur de toi-même. J'aimerais ça savoir comment on s'éveille à la vie intérieure comme ça, dans la vie d'une femme.
D'abord, je pense que d'être la troisième fille de la fratrie, j'étais souvent isolée. Mes deux grandes sœurs me confiaient des petites tâches, mais pour les sorties, non, je n'en faisais pas partie. Alors, j'étais dans un monde de silence, même si on était 7 enfants. Alors, je me retirais beaucoup, beaucoup dans ma chambre et j'écrivais. À l'école, c'était la même chose, pensionnaire. Grâce à Dieu, j'avais du talent. Alors, je terminais mes travaux rapidement, et donc au lieu de m'ennuyer, alors je me confiais au dictionnaire. J'étais une amoureuse du dictionnaire quand j'étais pensionnaire, parce que c'était la seule chose qu'on nous permettait à l'étude d'avoir avec soi, le dictionnaire. Donc j'ai vécu avec les mots.
Et le silence.
Et les mots m'ont inspiré.
Ouais, mais dans le silence. Le silence a été important dès le départ de ta vie.
Le silence, oui. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à la vertu du silence, parce que dans le silence, on peut se retrouver, tandis que dans le tumulte, on se perd. Alors, j'étais une fille timide, alors donc je préférais être en retrait. Et en retrait, ça me permettait d'écrire.
Et ce silence n'a jamais été lié à un isolement ou quelque chose comme ça chez toi?
De temps en temps, remarque, maintenant que je suis veuve, oui, le silence me permet de m'appartenir pleinement. Je vais devenir égoïste du silence. Et parce qu'il n'y a plus personne qui puisse me demander quoi que ce soit. Il n'y a que le chat qui miaule de temps en temps. Sinon, c'est le silence parfait dans ma maison. Et c'est tout à fait propice à la création, le silence.
Le silence est une réalité de ta vie qui est positive.
Oui.
Et qui va avec la solitude aussi, d'une certaine façon.
Oui, oui. Et ça a inspiré le recueil au plus creux du silence qui est apparu en 2023.
Au cœur de ce silence, au cœur de cette solitude, naît l'inspiration, avec la rencontre de qui tu es.
C'est dans le silence, ça j'ai écrit, qu'on vit grande douleur, mais c'est aussi dans le silence qu'on vit aussi les joies qu'on a eues lors de rencontres et tout ça qu'on revit. Et c'est dans le silence que l'on crée.
C'est dans le silence, je dirais, où tous ces événements de nos vies viennent prendre racine et fleurir. Sinon, ils passent comme ça, puis ils créent que des tensions, des choses comme ça. Tandis que dans le silence, les événements de nos vies, à la fois douloureux et joyeux, prennent racine et nous apportent toute cette nourriture, ce goût à vivre.
Oui. Et l'amour des mots permet à la poésie de donner toute la dimension de la grandeur et de la capacité des mots. Mmh. Parce que les mots ont une puissance souvent ignorée, mais les mots sont importants.
Moi, je ferais le parallèle dans ma vie avec l'amour de la couleur et des formes. Comment cet amour de la couleur et des formes me permet de mettre, au fond, des mots visuels à des expériences profondes, puis à la réalité de ma vie et de la vie aussi des autres, parce que on s'est jamais coupé des autres.
Mais la couleur a des mots et les mots ont des couleurs.
C'est ça.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai, parce que quand on dit un poème, on peut pas dire un poème recto tono. C'est ennuyeux. D'ailleurs, il y a une tendance à l'heure actuelle dans certains cercles de dire recto tono la poésie. Et c'est, là, on trahit la poésie.
On la vide de ses émotions.
Ben voilà. Parce que la poésie, c'est vivant.
Oui, peut-être on peut donner l'impression en parlant comme ça qu'on vit comme sur des nuages ou des bulles, mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est un quotidien. On se lève le matin, puis c'est soit que les mots viennent nous bouleverser de l'intérieur ou les couleurs viennent nous interpeller, mais c'est un quotidien. C'est quelque chose qui est au cœur de notre journée et de tout ce qu'on peut vivre ou de toutes les personnes qu'on rencontre.
Oui, et ça me fait dire souvent, poète, tu ne pleures pas tout seul. Lorsqu'un mot t'écharpe au cœur d'un poème, il s'agit d'une échappée fortuite, un malentendu qui subrepticement se glisse.
C'est magnifique. Hein? Parlons justement de l'importance dans tous les défis que nous avons à relever, à la fois individuellement, trouver un sens à la vie, trouver un sens à tout ce qui peut advenir, arriver dans cette vie personnellement, mais aussi collectivement, tous ces défis. On a l'impression souvent que quand on regarde le monde, qu'on est dépassé, qu'on ne sait plus vers où on doit aller, qu'est-ce qui se passe avec la nature, avec toutes ces violences. J'aimerais ça qu'on parle de, justement, qu'est-ce que la poésie vient faire là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'elle peut apporter, la poésie?
La poésie, c'est un baume. Bombe sur la douleur, soit la douleur de vivre, la douleur de l'histoire qui se vit jour après jour, de voir ces jeunes hommes en Ukraine qui se font massacrer par les Russes, de voir aussi ces gens qui sont de la Palestine et qui se font massacrer littéralement. Je pense que le monde manque d'humanité.
Et la poésie redonne cette humanité.
Heureusement, la poésie fait renaître l'espoir. Parce qu'à travers toute cette douleur que l'on vit, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre vers l'espoir d'un lendemain plus beau, d'un soleil après la pluie, d'un soleil après l'orage. Mais les orages à l'heure actuelle politiques sont tels qu'on a besoin de plus en plus de poésie.
Et les drames aussi, les drames dans la vie des gens, quand on voit les
cours, oui.
C'est incroyable, c'est chez les jeunes, sur les personnes âgées, tous ces drames auxquels ils sont confrontés, le mot, la poésie, l'image, la couleur peuvent apporter justement des brèches qui amènent vers la beauté d'une certaine façon et qui transforment la vie.
Oui, c'est comme s'il y avait un rideau sombre dont tu peux tirer juste une partie et que de là, tu vois l'arc-en-ciel. Là, tu te dis, mon Dieu, hein?
Oui. Moi, je conseille souvent de le matin au lieu de tout de suite se brancher sur les nouvelles du jour, de prendre 5 minutes puis de lire un poème, d'écouter une musique qui nous parle, de regarder une peinture qui vient nous toucher, de prendre un moment de silence pour se retrouver et après commencer la journée. On dit que les périodes de l'humanité où la poésie était comme presque ignorée, la spiritualité aussi, il y a eu moins de saints. Il y a un lien direct. Il y a eu moins d'êtres et de femmes et d'hommes qui ont été au niveau spirituel des phares pour leur époque. Il y a une relation directe entre la beauté transmise par la poésie, c'est-à-dire le niveau d'âme que transmet la poésie et le niveau d'âme que transmet une vie spirituelle donnée. C'est assez extraordinaire. Pour notre temps, tout l'art, en tout cas, on en reparle. Pour l'instant, on va écouter de la musique. Encore une chanson que tu as choisie. Est-ce que tu peux nous la présenter?
Je pense à « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé » de Félix Leclerc. Je trouve que c'est très très parlant. Et si je fais un parallèle avec mon vécu, ils m'ont amené du Québec à la France pour étudier. Et ça, ça a été merveilleux.
Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, payé le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes. Moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.
Ah, cette chanson de Félix, elle était prémonitoire. Elle parle de la guerre qu'on vit.
Oui.
Elle parle aussi des déplacements des populations. Je trouve qu'elle est d'actualité, cette chanson.
Elle montre bien que les mots sont éternels. Hein?
Oui, que Félix Leclerc est éternel. Parce que c'est une chanson qui a été écrite il y a fort longtemps, mais on dirait qu'elle était prémonitoire.
Elle était d'actualité, probablement, lorsqu'il l'a écrite, mais elle touche des réalités encore qui sont présentes encore aujourd'hui.
Oui, oui.
Et qui, malheureusement, seront peut-être encore présentes demain.
Oui.
Peut-être parce qu'on l'écoute pas assez, on prend pas assez au sérieux ces mots du poète.
Ben c'est ça. Les mots sont importants. Et puis il faut savoir trouver tout le sucre que contient le mot, tout puis le sous-texte, parce qu'il y a beaucoup de sous-textes dans cette chanson de Félix Leclerc, comme souvent dans la poésie, il y a beaucoup de sous-textes. Et il faut apprendre à lire lentement, se laisser imprégner, soit par une chanson, soit par un poème, et se laisser habiter.
Oui, parce que le mot a été confié uniquement à l'humain. Hein? Oui. C'est pas pour rien, il y a seulement l'humain qui peut à la fois utiliser, créer, faire des liens entre des mots pour créer des images, des impressions, des émotions. Et c'est une mission importante. Et moi, je pense que souvent, on néglige la mission du mot pour l'utiliser pour à des fins autres, commerciales, etc., etc., qui le trahissent profondément. En présentant la pièce, tu nous as dit, parce que tes souliers t'ont mené un peu partout aussi, toi, pas seulement à Laval. Donc, tu disais, mes souliers m'ont mené du Québec à la France, et je pense que ça a été un séjour important pour toi en France. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, j'ai habité 6 ans en France, après la mort de mon père, parce que ça, c'était un vœu sur son lit de mort que papa avait fait, que les enfants connaissent la France et la Belgique, qui sont nos origines. Alors, on est parti de 1948 à 1954 en France, et j'ai étudié en France. Et je peux dire un grand merci à une dame, une directrice d'école qui m'a sorti de ma coquille. Elle s'appelait Madame Billard, c'était directrice. Elle me faisait venir le jeudi parce que j'étais pour me guérir de ma timidité. Elle me faisait parler devant une classe vide pour que je prenne confiance en moi. Et grâce à elle, j'ai poursuivi toutes mes études jusqu'à l'université. Alors ça, je dois beaucoup. Et à Paris, j'ai été aussi un cobaye pour les psychologues. On a été choisi pour expérimenter l'étude sans avoir un livre en main pour étudier. C'était en biologie. Il fallait tout chercher par soi-même sans l'aide du livre. Alors donc, on a fait des choses, on est allé à la pêche à l'étang de Ville-d'Avray cueillir des spécimens de l'eau et on devait trouver ce qu'il y avait dans l'eau et découvrir et tout ça. Alors, c'est une belle expérience. Ça fait de moi, après ça, un chercheur. C'est comme ça que j'ai pu aller enseigner à la commission scolaire Marguerite Bourgeois à mon retour.
On voit bien que nos expériences nous forment. Hein, et on sent, derrière ces expériences-là, pourquoi tu t'es tant engagé et particulièrement dans l'éducation et dans la transmission, parce que pour toi, ça traverse ta vie, ton engagement. Un engagement qui dure, qui a perduré à travers plusieurs années, plusieurs décennies même.
Oui, ben on nous a fait comprendre assez jeunes que quand on a beaucoup reçu, on doit aussi beaucoup donner. Alors pour moi, c'était normal. Et d'aller vers souvent des gens qui était défavorisé par la vie. J'ai d'ailleurs eu le privilège de créer un cours spécial pour les gens qui étaient des déficients intellectuels. Et ça a été... J'ai appris à connaître les gens qui ont du cœur. Parce que les gens qui sont déficients ne sont pas déficients du cœur. Ils ont un cœur immense et qui ne demande qu'à aimer et qu'à être aimé.
La reconnaissance par des adultes, quand tu parles de tes expériences de jeunesse et de ta timidité, etc., que tu étais autre que seulement ta timidité, je pense que c'était précurseur que tu puisses toi-même vivre ça avec d'autres, de voir autre chose que leurs limites, que leur fragilité.
Exactement. Oui, ça a été une découverte parce que les déficients intellectuels ont une clarté d'âme que pas beaucoup de gens ont. On lit à travers eux facilement. ils nous lisent aussi. On ne peut pas tricher avec eux. On doit être authentique. On doit être vrai. On doit être honnête. On doit partager. Ça a été une de mes grandes joies dans l'enseignement.
Je sens aussi que c'est ça, cette authenticité-là, cette recherche, ce partage, cette vérité, ça traverse ta vie autant de poètes que de femmes et que de femmes engagées dans toutes sortes de milieux, hein, dans le milieu littéraire, mais aussi dans le milieu social.
Oui. C'était essentiel. Puis ça a aussi permis mon engagement sur, même sur le plan écologique, de dénoncer des choses qui étaient inadéquates. D'ailleurs, ça a amené un poème que j'ai fait pour un défenseur en écologie. Tu dénonces les inégalités des sols incultes où la parole est muette. Ton chant d'apatride résonne sur les flots migrants où s'absente la terre humaine. Je trouve que ce poème-là, il est d'actualité à l'heure actuelle. Parce qu'on regarde ce qu'on fait, ce que font les gouvernements, pour ne pas les nommer, sur les sols. Hein? On veut s'approprier des sols où il y a des milieux humides, où il y a de la vie. Et on voudrait y installer des batteries. Ça, c'est innommable.
Ouais.
Innommable. C'est honteux. Heureusement, les gens se sont réveillés autour. Et je souhaite que ça n'arrive pas.
Aimé, comme artiste, comme poétesse, on sent que je sens, mais je sais de toute façon, que tout ça naît dans une eau que je qualifierais dans la sensibilité profonde, hein, dans la sensibilité profonde à qui on est. On sent que tu as pris le temps de creuser qui tu étais à partir de tes propres fragilités, à partir de tes propres deuils, à partir de toute ta réalité de femme et d'être humain, mais aussi une sensibilité du monde, hein. C'est incroyable. Puis la création, elle se nourrit de cette sensibilité-là. Et c'est un moment de solitude, tu l'as très bien dit, un moment de silence profond, mais qui retourne vers les autres et qui nous redonne à nous-mêmes, après avoir écrit, après avoir peint, on est déjà différent, on est déjà plus loin dans ce long cheminement de la vie.
Oui, mais c'est sans fin parce que toujours surgissent des nouvelles réalités qui viennent heurter le peintre ou le poète et qui nous pousse à réagir en écrivant, en peignant, en dénonçant et souvent en soutenant les faibles contre les dirigeants les plus forts. Voilà.
Oui, c'est une question de vie.
Hein? Oui.
Les gens se disent, mais quand est-ce que vous allez vous arrêter? C'est impossible, c'est une question de vie.
Oui,
et moi, je me dis toujours, quand on porte cette sensibilité créative au plus profond de nous-mêmes, au fond de notre intériorité, c'est une question de vie que d'exprimer ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on vit avec les autres et avec soi-même.
C'est cette sensibilité qu'ont les artistes qui permet finalement aux gens de comprendre et puis des fois de partager le désarroi des artistes face aux situations vécues dans le monde, que ce soit la guerre, que ce soit aussi simplement sur le plan écologique, de regarder ce qui se passe avec la nature, de regarder aussi de prendre conscience des changements climatiques qui nous affectent de plus en plus. Hein, quand on pense que maintenant, à l'heure actuelle, il y a j'ai vu moi une image d'un ours polaire qui est sur une portion si petite de iceberg qu'il est lui-même en danger. et il semble nous dire qu'il faut prendre garde et protéger la nature et respecter la nature.
Cher aimé, nous devons nous quitter malheureusement, mais je pense que ces deux entretiens, j'espère en tout cas, nous auront fait comprendre comment la sensibilité et la sensibilité n'est pas une fragilité, mais au contraire, est une force extraordinaire et qu'on ne doit jamais renoncer à cette sensibilité-là. Merci, Aimé. À bientôt. Et bonne continuité. Continue à écrire, continue à avoir des projets et surtout à aimer ton monde et aimer les autres. Merci. Oui.
Merci, Daniel.
Vous venez d'entendre L'art du métier prise 2 avec à l'animation Daniel Leblon, jésuite. Son invité était Aimée d'Andois Paradis, poétesse.